Ézéchiel au chapitre 22, le verset 30. Vous pourrez ouvrir vos Bibles là et on va prier. Après ça, on fera la lecture. Seigneur, quel privilège d'être rassemblé avec mes frères, avec mes sœurs pour ce temps de communion, de partage, de méditation et d'exhortation. Nous te demandons, Seigneur, que tout ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui, nous puissions vraiment le saisir, le comprendre et en être transformés. Notre but, notre objectif n'est pas notre gloire, n'est pas notre satisfaction personnelle, mais tout d'abord, Seigneur, de te rendre un culte qui t'est agréable et de te laisser toute la place telle que tu le mérites, puisque toute la gloire et tout l'honneur t'appartient à toi et strictement qu'à toi. Seigneur, nous prions que tu ouvres notre entendement, que tu ouvres nos pensées et que tu nous diriges. Bénis ma sœur là où elle est ce matin, bénis mon frère là où il est ce matin. Fais la différence, Seigneur, dans nos vies. Transforme-nous, change-nous. Et qu'en toute chose, Seigneur Jésus, nous puissions vraiment te bénir pour la grâce, pour la vie, pour les bénédictions que tu répands sur nous. Mais aussi, Seigneur, tout simplement pour être pour le fait d'être appelés tes enfants. On a été rachetés par ton sang précieux. On a été greffés à la plus prestigieuse des familles qui soit, la famille de Dieu. Et nous voulons t'en dire merci. Alors Seigneur, bénis-nous et sois présent parmi nous dans cet échange. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous dans Ézéchiel au chapitre 22, le verset 30. La Bible nous dit: Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Et aujourd'hui, les mots clés: qui se tiennent devant moi. Et bien sûr, on va parler ce matin du terme panim qu'on a déjà eu l'occasion d'expliquer à quelques reprises depuis le début de nos méditations matinales, de nos bénédictions matinales. Panim en hébreu, donc P-A-N-I-Y-M, je répète, P-A-N-I-Y-M, qui veut dire en la présence de quelqu'un ou face à face avec quelqu'un. Et Dieu est en train de dire, oui, je veux un homme qui bâtisse un mur. Je cherche un homme qui bâtisse un mur. Je cherche un homme qui élève ce mur et qui se tienne à la brèche. Mais je cherche aussi un homme qui se tienne devant moi. Dans cette brèche où il sera à s'occuper, il sera en train d'intercéder. Je veux qu'il soit capable de se tenir devant moi. Et avant qu'on aille dans l'explication ou dans les caractéristiques du fait de se tenir dans la présence de Dieu, j'aimerais rappeler combien cette présence de Dieu devrait avoir ou devrait susciter chez nous le plus grand des respects. Je vais vous parler de deux textes dans l'Ancien Testament avant qu'on ne retourne à l'explication du texte d'aujourd'hui et aussi une explication dans le Nouveau Testament, particulièrement dans l'avenir, qui est le livre de l'Apocalypse. Alors, premier texte que j'aimerais qu'on regarde tout simplement pour nous parler de la présence de Dieu et de l'attitude à avoir se trouve dans Job. Un des versets les plus célèbres de Job se trouve dans ce dernier chapitre, le chapitre 42, avec le verset 5 qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il y a même des cantiques qui ont été écrits ou composés sur ce verset-là. « Jusqu'à présent, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et nous, on le prend comme une prière très souvent, comme un désir tout à fait noble de pouvoir avoir accès à la présence de Dieu. Mais on oublie le verset suivant qui nous explique ce que ça a suscité chez Job d'avoir entendu la voix de Dieu et que pour une première fois maintenant, son œil l'ait vu. Et ce qu'il dit au verset 6, c'est: voilà pourquoi je me condamne, je me repens sur la poussière et la cendre. Au lieu de jubiler, au lieu d'être dans l'exaltation profonde parce qu'il est dans la présence de Dieu, au lieu de cela, on voit que l'attitude de Job est celle d'un homme contrit. Et rappelons-nous, Dieu va dire de Job dans les premiers chapitres, lorsque le diable vient se présenter en demandant la permission d'éprouver Job, Dieu va dire sur son serviteur Job qu'il ne se trouve aucun homme aussi intègre que lui. La Bible nous explique tellement il était intègre qu'il offrait des sacrifices à Dieu par précaution au cas où ses enfants, dans les réunions qu'il faisait, dans les fêtes qu'il célébrait, au cas où ses enfants auraient péché, ne sachant pas complètement la vie de ses enfants, Job prenait l'occasion, prenait la précaution d'offrir des sacrifices pour demander pardon pour ses enfants. Et Job faisait de même pour lui. Job maintenait une vie devant Dieu qui est intègre. Et pendant tout le livre, malgré le test, l'épreuve à laquelle il est soumis, une épreuve qui est intense, pas une fois il ne va parler contre l'Éternel. Et là, il arrive à la fin, Dieu se révèle à lui, Dieu le rétablit, Dieu lui dit, tu n'aurais pas dû avoir ce genre de questionnement qui subsiste dans ta tête. Et Job dit à l'Éternel, j'avais entendu parler de toi, je te célébrais autrefois parce que j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, maintenant mon regard a été posé sur toi, et ce que ça suscite, c'est que je me condamne. Et je me repens. Deuxième verset dans Ésaïe, Ésaïe au chapitre 6, un passage que j'ai eu l'occasion de vous expliquer parfois lors de certaines de certains échanges. Là, on va le lire, c'est dans Ésaïe au chapitre 6. Voilà ce que les chérubins, voilà ce que les archanges font dans la présence de Dieu. Ésaïe 6, le verset 2. On peut même regarder à partir du verset 1 pour comprendre le contexte. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, deux dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Alors ici, on voit des archanges, on voit des anges qui se tiennent dans la présence de Dieu. Et la réaction qu'ils ont dans la présence de Dieu, c'est, on couvre nos pieds. Parce que les pieds étaient considérés comme des organes qui pouvaient être tachés, qui pouvaient être couverts de poussière, qui n'étaient pas nobles, donc on les cachait pour que le regard de Dieu ne tombe pas dessus. Les 2 ailes supérieures, ou du milieu si vous voulez, servaient à voler, mais les ailes supérieures, les ailes du dessus complètement, servaient à couvrir le regard, non pas pour que Dieu ne puisse pas voir le visage de ces séraphins, mais pour que les séraphins qui pourtant n'avaient pas péché, qui pourtant étaient des serviteurs ou des anges au service de Dieu, pourtant dans la présence de Dieu, se couvraient le visage. Parce que nul ne devrait rentrer dans la présence de Dieu de façon frivole. Alors ces anges qui n'ont jamais péché, eux se couvrent les yeux. Quelle est notre attitude? Voilà ce qui se passe pour Jean. Lorsque Jean, dans Apocalypse maintenant, ou Apocalypse le verset 1 et le verset 17, va nous dire ce que lui, il s'est passé lorsqu'il va être élevé, lorsqu'il va arriver en vision dans la présence de Dieu. Apocalypse 1, le verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Donc ici, Jean voit l'agneau de Dieu, voit la présence de Dieu, se tient dans la présence de Dieu plutôt, et la chose qu'il fait, il tombe au sol comme étant mort. Tout ça pour dire qu'on ne se présente pas dans la présence de Dieu de n'importe quelle manière. On ne devrait pas, et je l'ai dit tout à l'heure, pénétrer dans la présence de Dieu de façon frivole. On ne devrait pas se précipiter dans la présence de Dieu sans s'assurer d'être en état, d'être de stature appropriée ou en condition plutôt appropriée pour rentrer dans la présence de Dieu. Alors voici ce que j'ai à cœur de vous partager quant à « Je cherche un homme qui se tienne devant moi », donc dans la présence de Dieu. Un, il faut vouloir se tenir dans la présence de Dieu. Dieu cherche un homme. Il n'a pas placé un homme dans sa présence. Il cherche un homme qui va élever un mur, qui va se tenir dans la brèche devant Dieu. La présence de Dieu, il faut la vouloir. C'est pas quelque chose qui arrive de façon arbitraire ou de façon inopinée. La présence de Dieu, je la recherche. La présence de Dieu, je dois vouloir m'y tenir. Dieu ne nous forcera pas à nous tenir dans sa présence. Et là, il cherche un homme qui désire être dans la présence de Dieu. Et cet homme-là doit être conscient de tout ce qu'on a dit dans les premières minutes de notre échange quant à ce quelle est l'attitude, quant à ce que ça représente comme ampleur de nous tenir dans la présence de Dieu. Donc, premier point, l'homme doit vouloir se tenir dans la présence de Dieu. Deuxième point, cet homme-là doit avoir le droit de se tenir dans la présence de Dieu. C'est pas parce que je voudrais me tenir dans la présence de Dieu que j'ai droit de me tenir dans la présence de Dieu. N'oublions pas que notre Dieu est un roi et que dans la tradition, tout au long des siècles, c'est qu'on ne se présente pas devant un roi, on ne se présente pas devant un monarque de manière comme on veut ou de façon non annoncée. On doit être invité et accepté. On prend souvent l'exemple d'Esther qui va se présenter devant le roi Assuérus et c'est au risque de sa vie, dans le sens où si elle se présente devant le roi et que le roi ne l'a pas invitée, le roi doit accepter sa présence en étendant son bras et son sceptre vers elle, mais si le roi décide de ne pas étendre son sceptre vers elle, ben Esther va mourir. Esther va être mise à mort. Pourquoi? Parce que même si elle est la préférée du roi, même si elle est la femme principale du roi, elle n'a pas pour autant le droit de se présenter devant lui librement. Donc encore là, nous devant Dieu, même si on sort le verset dans Hébreux qui dit « il a ouvert une voie à travers laquelle nous avons un libre accès à sa présence », mais entrer dans la présence de Dieu n'est pas donné à monsieur et madame tout le monde. Celui qui est pécheur, celui qui n'a pas Jésus comme maître et Dieu comme chef de sa vie et comme roi de sa vie, ben il n'a pas accès à la présence de Dieu. J'ai accès à la présence de Dieu parce que je suis son fils. Tu as accès à la présence de Dieu parce que tu es son fils ou sa fille, parce que tu as été racheté. Notre Dieu est un Dieu saint et si nous n'avons pas été sanctifiés, nous n'avons pas accès à la présence de Dieu. Troisième point, celui qui veut avoir accès à la présence de Dieu doit aussi être capable de soutenir la présence de Dieu. On voit Jean qui est sanctifié, Jean qui est un des proches de Jésus, Jean qui est un disciple fidèle, Jean à qui il va être fait des révélations qui sont plus grandioses que toutes celles que vous et moi, on pourrait avoir reçues, ben ce genre-là, quand il reçoit la vision de Dieu, quand il est en présence de Dieu, il tombe au sol comme mort. Donc, encore nous aussi, doit-on être capable de soutenir la présence de Dieu? Puis, il nous faut avoir l'attitude de cœur appropriée pour la présence de Dieu. On ne se présente pas dans la présence de Dieu avec un cœur à l'encontre de Dieu. On ne se présente pas dans sa présence orgueilleux. Quand je pense aux anges et quand je pense à ma propre vie, l'idée qui me vient régulièrement, c'est que lorsque la présence de Dieu est intense, que ce soit dans une assemblée, dans une réunion ou même dans mon culte personnel, dans mon temps de dévotion personnelle, moi, ma réaction première dans la présence de Dieu, lorsqu'elle est intense, c'est pas de battre des mains, de sauter et de manifester, d'être exubérant dans la manifestation de ma joie. Mais ce qui vient de façon primaire chez moi, c'est pratiquement j'ai envie de me mettre en boule, j'ai envie de me ratatiner au sol parce que je comprends combien je suis petit. Et combien sa présence est immense. Et je comprends que n'eût été sa grâce, et n'eût été sa grâce qui se manifeste encore aujourd'hui, je serais condamné et condamnable à mort à cause de mon péché, à cause de mon iniquité. Et à chaque fois que je me présente devant Dieu, je me présente devant lui avec cette pensée comme quoi je ne suis qu'un gracié. Je serais un gracié pour le restant de ma vie, mais je serai aussi un gracié pour le restant de l'éternité. Je vais pleinement me réjouir d'être dans la présence de Dieu. Je vais pleinement me réjouir de passer l'éternité avec lui dans sa présence, contrairement à ceux qui seront condamnés et jetés dans l'enfer où ils n'auront plus accès à la présence de Dieu. Pour l'éternité, je vais me réjouir d'être dans sa présence, mais pour l'éternité, je vais me rappeler que je suis un gracié. Parce que pour l'éternité, je suis effectivement un gracié. Et toi aussi. Alors, certaines personnes ont tendance à oublier ce fait. Et ce faisant, on peut venir par prendre, ou on peut finir par prendre pour acquis la présence de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu es un gracié, tu es une graciée de la part de Dieu. Tu as bénéficié de la grâce de Dieu, de la grâce royale qui a empêché que tu passes pour la mort éternelle, qui t'a empêché d'être condamné pour le restant de l'éternité. Mais pour toi, la vie éternelle, c'est une vie éternelle où je suis un gracié, où je dois être reconnaissant et je dois me rappeler que n'eût été l'amour, l'affection, la compassion, la passion de Jésus à mon égard, je serais mort par mes offenses. Et on se présente devant Dieu avec cette attitude de cœur repentant, de cœur humble, de personne docile, de cœur docile. Pourquoi? Parce que je sais de quoi il m'a épargné. Le danger dans la chrétienté, c'est qu'à un moment donné, on s'habitue tellement à la présence de Dieu. À un moment donné, on s'habitue tellement à une relation personnelle avec Dieu. Et c'est vrai qu'il est notre ami. C'est vrai qu'il est notre conseiller. C'est vrai qu'il nous aime comme un père qui aime ses enfants. C'est vrai qu'il est là comme un oiseau qui nous couvre de ses ailes pour nous protéger. C'est vrai qu'il est tout ça. Mais en même temps, je sais que je ne suis même pas digne encore aujourd'hui d'être dans sa présence. Alors honnêtement, quand je pense à m'approcher de Dieu, moi la pensée que j'ai, c'est ces anges qui se couvrent les yeux et qui disent « je ne peux même pas le voir, je ne suis même pas digne d'être dans sa présence. Je ne suis même pas digne, comme Jean-Baptiste va dire, de délier les sangles de ses souliers. Je n'en suis même pas digne. » C'est voilà la pensée qui habitait Jean quand Jean-Baptiste, mais quand Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, va voir la présence de Dieu, va être dans la présence de Dieu, il tombe au sol comme mort. Il sait qu'il mérite la mort en étant lui impur dans la présence du Dieu saint. Et l'agneau va lui dire, ne crains pas, parce que j'ai vaincu la mort et le séjour des morts. Mais malgré tout, cet état de gratitude, cet état d'humilité doit habiter en nous. Et c'est pas qu'on est là en train de se rappeler que nous sommes des condamnés. Mais non, on n'est plus des condamnés, mais on se rappelle que nous sommes des graciés. Et peut-être que l'humilité s'emparerait de nous et on ne deviendrait pas des grands quelqu'un orgueilleux pour des choses qui ne nous appartiennent pas, dans le sens où ton onction, tes dons, tes talents, ton ministère, tes paroles de sagesse, tes paroles de connaissance, tes prophéties, tes visions, tes rêves, les miracles que tu as accomplis, tout ça ne vient même pas de toi. Tout vient de celui qui travaille à travers toi et tu ne le mérites pas. Alors l'attitude que je crois qu'on devrait prôner, c'est celle de ces anges qui se cachent les yeux en disant, Seigneur, je ne suis même pas digne d'être devant ton trône. Quand Esther va se présenter devant le roi, à coup sûr, Esther n'est pas venue avec une attitude de bravade devant le roi. Elle s'est présentée en sachant qu'elle pouvait mourir en étant en présence du roi. Et quand je me présente devant le roi des rois, quand j'ai accès à sa merveilleuse et somptueuse et incommensurable présence, moi, c'est une attitude de petitesse qui s'empare de moi, où je pense qu'elle devrait s'emparer de moi. Et j'espère que ça s'empare de toi aussi. Enfin, dernier point pour aujourd'hui. Lorsque je me présente devant la présence de Dieu, je dois aussi avoir la raison appropriée de me tenir en présence de Dieu. Il y a cette image de Marie qui est au pied de Jésus alors que Marthe travaille. Et on dit souvent, mais la Bible nous le dit même que Marie a choisi la bonne part. Mais il n'y a rien qui nous dit que d'être actif et en action et au service de Dieu était inapproprié pour Marthe aussi. C'est simplement qu'il y a un temps pour toute chose et pour ce moment précis. Marie avait choisi la bonne part. Mais servir Dieu, venir avec une raison d'être dans la présence de Dieu est tout à fait logique. Je dois savoir pourquoi je me tiens à la brèche. Dieu va dire, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi. Mais il se tient là pourquoi? Est-ce qu'il se tient là pour braver Dieu? Non. Est-ce qu'il se tient là pour dire, moi, je vais faire opposition au plan de Dieu? Non. Est-ce qu'il se tient là pour dire, moi, j'ai le droit d'être là? Aucunement. Est-ce qu'il se tient là pour dire aux autres, moi, j'ai été le seul à être capable de me tenir là? Non. La raison pourquoi il se tient dans la présence de Dieu, c'est pour intercéder pour ceux qui sont condamnés et condamnables. Et se présenter devant Dieu pour dire humblement, Seigneur, je sais que mes concitoyens, je sais que mes congénères, je sais que mes contemporains méritent la mort, mais je viens implorer ta grâce, Seigneur. Et lorsqu'on se présente devant la présence de Dieu, certains ne s'y présentent que pour satisfaire une curiosité. Ils aiment le croustillant qui vient avec le fait d'être dans la présence de Dieu. Ils aiment l'apaisement personnel qui vient d'être dans la présence de Dieu. Ils aiment les sensations, même physiques, que ça peut parfois susciter, les tremblements, les ci ou ça, que la présence de Dieu peut susciter. Ils aiment le côté spectaculaire qui entoure la présence de Dieu, les malades qui sont guéris, les aveugles qui voient, les démons qui sont chassés, les chaînes qui sont brisées, les murs qui tombent. Ici, l'homme que Dieu cherche est un homme qui se présente dans la présence de Dieu, non pas pour être ébahi, non pas pour être émerveillé, non pas pour être amusé, ou en anglais, comme qui disent « entertained », qui a un bon spectacle, mais se présente dans la présence de Dieu, c'est redondant, mais je le dis quand même, afin d'intercéder parce qu'il y a une génération qui est en train de se perdre. Et quand on se présente devant Dieu, ça devrait être la même attitude pour nous. Seigneur, je me présente devant toi, oui, pour te dire que je ne mérite pas d'être dans ta présence, mais en même temps, Seigneur, pour, pour intercéder pour ma génération, pour intercéder pour ma ville, pour intercéder pour mon pays, pour intercéder pour ma famille, pour intercéder pour mon fils, pour ma fille, pour mon père, pour ma mère, pour mes amis, pour mes proches. Seigneur, je ne viens même pas te demander pour moi, je viens te demander, Seigneur, pour mon prochain, parce que ta parole me dit, Seigneur, de t'aimer en premier, d'aimer mon prochain en second, Seigneur, et je ne veux pas penser à moi, je veux penser à eux, Seigneur, afin qu'eux aussi puissent se tenir dans ta présence. Alors qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu qu'on ne se présentait pas dans la présence de Dieu de n'importe quelle manière. On y venait parce qu'on voulait être dans la présence de Dieu. On cherchait, on répondait favorablement à cet appel de Dieu. On se présente devant Dieu parce qu'on a le droit, parce qu'on a acquis un droit, parce qu'il nous a été donné un droit de nous tenir en sa présence. On se présente devant lui en se demandant, est-ce que je vais pouvoir soutenir sa présence ou est-ce que ma vie fait en sorte que je ne puisse pas soutenir même sa présence? On se présente devant lui en se demandant, est-ce que l'attitude de mon cœur est appropriée? Est-ce que j'y viens avec un cœur qui est orgueilleux, un cœur qui est vantard, un cœur qui est en train de se péter les bretelles, où je me présente devant lui avec cette attitude humble, qui s'humilie soi-même, qui s'abaisse soi-même, et qui se couvre en disant, Seigneur, je ne suis même pas digne de regarder tes pieds, encore moins, Seigneur, de voir ta face. Et enfin, est-ce que je m'approche de lui pour les bonnes raisons, celle du salut de ma génération, celle du salut de mes prochains, celle du salut même de mon ennemi. Est-ce que c'est ça qui fait en sorte que je me présente devant Dieu, ou la seule chose qui fait que je cherche la présence de Dieu, c'est le côté spectaculaire de la chose. Dieu n'est pas là pour nous faire un spectacle. Dieu n'est pas là pour nous donner un spectacle. Dieu n'est pas là pour se livrer en spectacle. Dieu est là pour entendre notre intercession, parce qu'il cherche cette intercession afin de ne pas condamner, de ne pas punir notre génération. Alors présentons-nous devant Dieu avec cette attitude, comme il se doit. Alors voilà ce que j'avais pour nous ce matin. On continue bien sûr demain. Avant qu'on salue ceux qui se sont joints à nous, on va tout simplement prier et rendre grâce à Dieu pour ce moment. Seigneur, ce matin, on a parlé de ta présence. Et oui, Seigneur, ta présence est merveilleuse, indescriptible. Nos mots, Seigneur, sont faibles pour qualifier la grandeur, l'immensité de la gloire qui entoure ta présence. Mais Seigneur, quand je pense à ta gloire, je pense aussi, Seigneur, à la petitesse de ma personne. Quand je pense, Seigneur, à avoir accès à ta présence, je ne peux m'empêcher, Seigneur, de me rappeler que je ne mérite aucunement d'être dans ta présence. J'y ai peut-être le droit, effectivement, parce que tu m'y donnes accès, parce que tu m'y invites. Mais foncièrement, Seigneur, je sais que je suis un pécheur qui a été gracié. Je sais, Seigneur, que mon cœur inique a été gracié. Je sais, Seigneur, que mes paroles sont faibles. Je sais que mes mains, Seigneur, ont encore besoin d'être sanctifiées. Je sais, Seigneur, que mes lèvres ont encore besoin d'être sanctifiées. Et mes yeux, Seigneur, qui se sont posés sur le péché si régulièrement, seraient à même, Seigneur, de poser leur regard sur toi. Seigneur, je prends l'image de ces anges dans Ésaïe, Seigneur, lorsqu'ils se couvrent le regard, lorsqu'ils se couvrent le visage. Seigneur, ta présence devrait nous inspirer, Seigneur, toute l'humilité qui se doit. Et Seigneur, si tu me donnes accès à ta présence, je veux y avoir accès, Seigneur, non pas pour moi-même, non pas pour satisfaire mes besoins, mes attentes, mes recherches personnelles, mais pour implorer ta grâce sur ma génération. Seigneur, l'homme que tu cherches qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant toi, c'est pour intercéder pour sa génération, pour ses congénères, pour ses concitoyens. Alors Seigneur, puissions-nous nous approcher de toi, mais avec ce cœur, Seigneur, de présenter devant ton trône de grâce notre génération, notre prochain, notre ennemi, notre frère, notre sœur, notre père, notre mère. Et que ta grâce leur soit aussi accordée à eux. Merci Seigneur. Nous t'avons prié en ton nom Jésus. Amen. Alors, nos rendez-vous pour le restant de la semaine, on a bien sûr demain, vendredi, dernière bénédiction matinale de cette semaine. On conclura ce merveilleux verset, mais en même temps terrifiant verset, si effectivement Dieu ne trouvait pas un tel homme dans cette génération-ci. Donc on continue ce verset dans Ézéchiel 22, 30 demain. On vous rappelle demain soir notre rendez-vous pour un temps de prière, d'intercession en lieu et place des églises de maison que nous avions jusqu'au confinement. Dimanche, on devrait avoir des nouvelles à vous donner justement sur le déconfinement. Vous savez que le gouvernement a accordé le droit de se réunir pour des lieux de culte, 50 personnes et moins avec différentes réglementations. Un de mes collègues qui est assez connecté au niveau gouvernemental a eu l'occasion de m'envoyer les normes un peu plus tôt cette semaine. Donc, dans les prochains jours, j'ai une rencontre avec mes proches collaborateurs pour voir comment on opère le déconfinement. Comme je disais en tout début de séance, confiner était relativement simple parce qu'on disait tout simplement « vous restez à la maison » et puis on ne se réunit pas, du moins pas sur place à l'église. Mais déconfiner, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut le faire de façon sage, de façon graduelle, en respectant toutes les normes que nous impose l'État. Et ces normes-là, elles sont logiques et elles sont tout à fait appropriées. Ce faisant, on fait en sorte que nos frères et nos sœurs, qui soient plus faibles physiquement, ne soient pas affectés. Et on fait en sorte de prendre soin de notre prochain en s'assurant que l'Église ne soit pas un lieu d'éclosion de pandémie. Donc, on vous demande de prier pour nous, que Dieu nous facilite la tâche, nous révèle comment faire les choses, mettre en place les différentes normes au sein de l'Église et dans le bâtiment. Et puis, qu'il accorde à tous et chacun la patience, parce qu'à 50 par réunion, c'est pas mal plus petit que ce qu'on avait l'habitude auparavant. Donc, que Dieu nous accorde la sagesse à tous et chacun pour bien faire ce déconfinement et y aller graduellement et sagement. Alors, sur ce, je vais dire bonjour à quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis le début. Je ne vois pas tout le monde, donc je risque d'en oublier, je crois. Ouais, je ne vois pas assez de monde, malheureusement. Donc, mes salutations, je vous les donne à tous, comme ça, sans nommer trop de personnes. J'ai juste je vais faire une exception. Mon bon ami, le pasteur Georges Dabo, encore là, honoré de ta présence, mon ami. Et tu me manques énormément. Georges Dabo fait partie des 5 conseillers privés que j'ai, ou personnels que j'ai. Il m'est très, très précieux, tant pour ses conseils que pour son amitié. Et je disais il y a quelque temps, lorsque je parlais de la bise, il y a 2 hommes qui ont le droit de me faire la bise à Montréal. Il y a mon père. Et l'autre personne, c'est le pasteur Georges Dabo, parce qu'on est tous deux on est tous deux originaires de la France, et la bise là-bas, elle est normale. Donc, même si je suis un petit Montréalais, bien québécois, avec l'accent qui a beaucoup modifié, à Montréal, les deux seuls qui me font la bise, chez les hommes, c'est mon père et le pasteur Georges Dabo. C'est eux seuls qui ont l'exclusivité. Donc, il m'est très précieux, je voulais le saluer ce matin. Et certainement qu'on va avoir l'occasion de parler, lui et moi, prochainement, pour voir comment s'opère le déconfinement chez lui aussi. Prier pour son Église. Alors, on se retrouve donc demain matin pour notre dernière bénédiction matinale de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents toujours, respectez lavage de mains, masque dans les lieux publics et puis distanciation sociale. N'enfreignez pas les règles si on se réunit à la maison. Vous savez, c'est pas plus de 10 personnes et pas plus de 3 adresses civiques. Donc, soyez un bon témoignage aussi là-dessus. Je sais que la tentation peut être forte de faire des écarts de conduite, mais sachez que le Seigneur vous regarde et sachez que même dans le secret de ce qui se passe chez vous, on doit respecter ce que l'État nous dit et respecter les lois et les normes qui sont placées. Donc sur ce, que Dieu vous bénisse, on se retrouve demain matin pour notre dernière bénédiction de la semaine. Alors, bonne journée à tous. Bye bye.